Internet Campagne. Bonjour, nous nous installons cette semaine dans le département de la Haute-Vienne, dans la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine, la Haute-Vienne, un des départements de l'ancienne région du Limousin. Limoges, principale ville du centre du plateau de ce département qui ne gagne pas de population, voire qui en perd depuis quelques années. On peut toutefois être modeste et avoir de bonnes idées. Je prends pour exemple cette initiative du département. J'avais dit que j'irais lentement par rapport à Serge Boson, baptisé la culture au grand jour. Le but de cette opération est de faire connaître la création culturelle locale en la diffusant en milieu rural. Pas moins de 40 spectacles gratuits sont programmés en ce moment jusqu'au 8 avril du 100% au Viennois. Et vous allez avoir un lien avec cette opération sur nos pages d'émission. Nous ouvrons d'ailleurs cette édition par un pôle culturel qui a plus de 30 ans d'âge, qui a vu le jour grâce à Annie Fratellini qui installe ses stages d'été ici en Limousin. Nexon, c'était en 1987, devenu pôle national du cirque. Ce lieu, terrain de formation, de création contemporaine, est le siège aussi de festivals. Martin Palisson, jeune nouveau directeur, sera en ligne avec nous. Et puis une belle illustration de la revitalisation d'espaces dédiés à l'artisanat, l'atelier-musée de la Terre à Puychenny, village des Tuiliers. Visite guidée tout à l'heure avec Aurélie Garraud.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Martin Palis, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Ravi de parler avec vous, artiste, jongleur, metteur en scène, en piste. Metteur en piste, on dit. Et directeur du pôle national du cirque de Nexon. Nexon, on en a déjà parlé à plusieurs reprises parce que c'est un lieu de regroupement. Il y a une sorte de fourmilière d'artistes dans un parc à côté d'un château magnifique. Annie Fratellini était là à l'origine, y installait des stages et puis ça a pris une ampleur avec une route du cirque, un événement d'été et là une foule, cette fois de chapiteaux où on invente régulièrement. Et vous avez pris la direction en 2014, une nouveauté parce que les artistes sont rarement à la tête d'un pôle national artistique.
En effet, je suis le premier artiste nommé à la direction d'un pôle national. Voilà, j'espère ne pas rester seul. Hein,
c'est quoi la différence entre un pôle national du cirque, comme celui de Nexon, on dit cirque maintenant avec un S, d'ailleurs au passage, et une école nationale?
Alors, un pôle national cirque, c'est un lieu qui accueille des artistes professionnels qui, tout au long de l'année, viennent en résidence chez nous, préparer des spectacles, créer, mener de la recherche artistique et qui présentent un grand festival au mois d'août, tous les étés, qui s'intitule La Route du Cirque. Une école nationale, c'est une école, comme son nom l'indique, qui forme les jeunes artistes.
Alors, on parle de pratique, mais est-ce qu'on débat chez vous et on réfléchit à l'utilité sociale? C'est une question qui revient assez fréquemment, à l'utilité sociale des pratiques artistiques et culturelles.
Je ne sais pas si on en débat réellement. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu tout débattu. Oui, les arts ont une utilité sociale. Être artiste, c'est un choix, donc c'est un engagement. Et notre utilité sociale, évidemment, elle existe. Nous permettons au public d'accéder à des œuvres, d'accéder à l'acte de contempler ou à l'acte de pratiquer, qui sont deux choses différentes, mais complémentaires.
Oui. Et vous allez justement dans ces missions, en tout cas cette direction d'action sociale, auprès des publics scolaires.
Tout à fait. Nous travaillons auprès de publics scolaires, nous travaillons auprès de publics en réinsertion, nous travaillons beaucoup avec la protection judiciaire de la jeunesse, avec les centres sociaux, avec l'ensemble de l'environnement qui nous entoure. C'est très important aujourd'hui de s'adresser à la jeunesse. Elle a beaucoup de choses à apprendre et il y a beaucoup de choses à partager avec elle. Il ne faut pas la laisser dans l'emprise des outils simplement numériques.
Et au pôle national Cirque de Nexon, on a une conscience écologique?
Oh oui, évidemment. Étant donné le territoire sur lequel on travaille, on baigne dans un océan de verdure avec des arbres magnifiques. Donc, bien entendu, on fait attention à cela. Et alors, ça se traduit par plein d'éléments. Quand on invite les compagnies, on fait en sorte qu'elles restent assez longtemps. Les spectacles sont très souvent présentés en série chez nous. On tente toujours d'inscrire toutes nos actions dans la durée, parce que l'écologie, ce n'est pas seulement la question environnementale de l'énergie, mais c'est aussi l'écologie entre les hommes, les femmes qui travaillent ensemble, l'écologie entre l'artiste et la société. On tente de travailler cette notion sous tous ses angles.
Et Martin, vous avez mis au point, ou en tout cas vous mettez au point un programme que vous appelez le cirque sur la piste verte.
Le cirque sur la piste verte, oui. C'est une idée plutôt qu'un programme d'ailleurs pour l'instant. nous devons aujourd'hui, je pense, un tout petit peu en matière d'art et de production de la création, non pas à décroître, mais simplement à ne pas trop croître pour à un moment donné arriver à un stade où nous ne serions plus accessibles par tout le monde. Nous devons rester un art populaire, et qui dit populaire dit aussi que nous devons et pouvons créer des spectacles avec peu, être minimaliste quelque part. J'aime bien les artistes qui aujourd'hui pensent à pouvoir créer des spectacles en disant, voilà, mon budget pourrait être la retraite de ma grand-mère. C'est quelque chose que je trouve assez respectable, voilà, assez honorable.
Oui, c'est joli comme image. Alors, la route du cirque, c'est du 6 au 25 août. Et là, dans ces propositions d'art populaire, comme vous l'avez bien précisé, vous allez vers tous les publics. Comment faites-vous ?
Bon, écoutez, c'est pas si difficile que ça d'aller vers tous les publics. Je dis toujours qu'un programme, c'est comme un bouquet de fleurs, mais où il n'y aurait pas qu'une seule fleur présente. On rassemble comme ça plein d'essences, on les réunit, et le public a le choix à l'intérieur. On peut être élitiste et populaire à la fois. Élitiste, la racine du mot, signifie s'élever tous ensemble vers le haut. Donc on tente d'être élitiste dans les artistes que nous présentons et populaire parce qu'on s'adresse à tout un chacun, même aux personnes les moins aisées, sans différenciation, sans distinction. Voilà.
Bravo pour le travail que vous faites, monsieur le directeur, qui continue d'ailleurs
Merci
à faire
beaucoup.
Ses créations, ses mises en scène, jonglerie, qui tourne aussi à la chorégraphie avec beaucoup de musique contemporaine. Le site, c'est Cirque, alors avec un S, cirquenexon.com. Merci, Martin.
Je vous remercie. À très bientôt.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Entreprendre là où on l'a. Là où on a envie de vivre, ce vœu est partagé par d'innombrables candidats, candidates à l'installation en milieu rural. Parfois on y est né, parfois on quitte la ville vers un espace ouvert pour gagner en sérénité avec un projet dans sa valise, vous en entendez tous les jours dans les carnets. Et c'est pour mettre en valeur ces actions et initiatives et pour donner à la ruralité de nouvelles perspectives de développement que le groupe Milan Press, associé à un incubateur d'entreprises innovantes, Better Life Factory, ont imaginé un prix innover à la campagne. Le lancement national de ce prix, c'est aujourd'hui. En direct en ce moment, les principaux partenaires de cette première sont la Banque publique d'investissement et les parcs naturels régionaux de France peuvent candidater. À partir de ce jour, les créateurs ou créatrices d'entreprises en activité ayant déjà généré un chiffre d'affaires, peu importe son volume, les conditions requises sont que l'activité doit se situer à la campagne, que l'entreprise, tous les statuts sont admis, ne doit pas avoir plus de 15 ans et qu'elle doit présenter un caractère innovant. À gagner, une médiatisation de l'entreprise ou du projet, un accompagnement financier avec la BPI et la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 juillet 2018. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous lancer dans l'aventure innoveralacampagne.fr pour l'adresse du site. Aurélie Garraud, bonjour.
Bonjour.
Vous avez les mains dans l'argile ?
Actuellement non, mais je vais pas tarder à y retourner, oui.
C'est pas tout à fait votre première fonction, puisque vous êtes responsable développement culturel, animatrice de l'atelier musée de la Terre de Puychenie. Alors, d'abord, il y a une association née en 1992, celle des Amis des Tuileries du Limousin. Et jadis, c'était une activité, il y a encore un siècle, une activité très importante dans la région.
Dans le secteur et dans la région, parce qu'en fait, en Haute-Vienne, il y avait 120 tuileries au début du XXe siècle. Et dans le village de Puychenie particulièrement, donc sur la commune de Saint-Hilaire-les-Places, il y avait une douzaine de tuileries.
Et il s'agissait donc de restaurer ce savoir-faire, ou en tout cas de le préserver, de le mettre... Et pardon, parfois on dit, ah, c'est un musée, on le met sous cloche.
Alors, c'était à la fois de préserver le patrimoine architectural, parce que l'architecture d'une tuilerie, c'est très particulier, avec des grandes toitures qui embrassent presque le sol. Et c'était aussi pour préserver la mémoire des tuiliers qui ont travaillé pendant plusieurs décennies, mais en même temps pour valoriser les tuileries encore en activité, puisqu'il y a encore deux irréductibles tuiliers dans le village de Puychenie et un troisième en Haute-Vienne, qui se sont spécialisés dans la tuile de restauration. Donc c'était aussi pour valoriser leur savoir-faire, parce que du coup, voilà, ils ont repris le savoir-faire de leurs ancêtres pour valoriser le produit. Et plus globalement, finalement, pour aussi valoriser cette terre, parce que sans cette argile, on ne ferait pas grand-chose. Donc c'est tout un environnement, en fait, c'est tout un contexte.
Alors on parle des tuiliers feuillardiers.
Oui, Le métier de tuilier à l'époque, c'était un métier saisonnier. Donc, quand je dis à l'époque, c'était effectivement avant l'apparition des machines, en fait. Et du coup, le métier de tuilier se pratiquait au beau jour, donc printemps, été, et les ouvriers devenaient feuillardiers l'automne et l'hiver.
Alors, feuillardier, ça consistait à fabriquer des cercles en lac de châtaigniers pour entourer les tonneaux.
C'est ça, un métier qui est pas complètement disparu, mais il reste 2-3 feuillardiers dans la région où ils ont encore des commandes de la part des tonneliers. Et effectivement, c'était un savoir-faire très très particulier.
Alors, ce qui est bien aujourd'hui, je trouve, c'est qu'il y a ce que l'on disait terminé, révolu, revient avec un regain d'intérêt, avec des entreprises artisanales qui naissent à nouveau et en restaurant ces savoir-faire. Est-ce que vous, de votre côté, via l'atelier musée, vous voyez aussi ce regain d'intérêt auprès du public ?
Oui, on mène le travail depuis une vingtaine d'années aujourd'hui et notamment auprès des écoles. Donc forcément, il y a ce devoir de transmettre à la fois le patrimoine, mais aussi l'intérêt de cette terre, en fait, qu'on a aussi dans le bâti abandonné. Mais finalement, on y revient, à la fois la terre cuite, mais aussi la terre crue. Mmh. Et du coup, effectivement, il y a un regain d'intérêt à la fois dans le côté de l'éco-construction, etc., mais aussi dans tout ce qui est après artistique. Les gens ont envie de remettre les mains à la pâte, dans la terre.
On peut faire une tuile chez vous ?
On peut faire une tuile, mais on peut faire plein d'autres choses en plus. Mais oui, on peut apprendre à faire une tuile.
Oui, oui. Et que sont devenus les sites d'exploitation et d'extraction ?
Alors aujourd'hui, donc il y a encore les deux carrières qui sont en exploitation, les carrières des tuiliers, mais il y a aussi du coup les anciennes carrières et une partie en fait est devenue depuis peu une réserve naturelle régionale. C'est ce qu'on appelle la lande à serpentine, parce que nous l'argile, elle est un peu particulière, elle provient d'une roche un peu mystérieuse qu'on appelle serpentine.
Ah bon.
Donc c'est la dégradation de cette roche qui fait qu'on a une argile un peu grise verte qui devient orange à la cuisson. Et du coup voilà, il y a toute un environnement naturel autour de cette géologie très particulière. Donc il y a une faune et une flore atypiques et puis dû à l'extraction d'argile, en fait il y a des poches qui se sont créées, des petites mares où du coup il y a toute une population d'amphibiens qui aujourd'hui se sont développés. Donc c'est très prisé aussi cet espace par les naturalistes.
Et vous organisez des balades comptées dans ce site?
Et oui, parce que c'est propice aussi à l'imaginaire, tout ça. Une végétation qui ressemble pas à ce qu'on a autour, en Limousin. Du coup, voilà, on emmène les visiteurs en balade, à la fois à la découverte finalement de l'histoire du lieu, mais aussi à travers des balades comptées. Et puis, on propose des initiations au Land Art également.
Bravo. Et puis, les enfants sont ravis de mettre la main à la pâte et de participer aux ateliers. Il y a des ateliers modelage pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et c'est un lieu réjouissant pour retrouver ces gestes, ou en tout cas les apprendre. L'ateliermusée-de-la-terre.com, alors vous allez trouver l'adresse à nos pages d'émission, ateliermusée.depuischeny, ça c'est la page Facebook. Merci Aurélie.
Merci à vous, merci beaucoup.
Un petit rappel de contrôle, la semaine prochaine nous serons dans la Dordogne, et ensuite dans l'Aude, dans l'Indre, dans l'Ariège, donc pour le programme du mois d'avril, Dordogne-Aude, Indre-Ariège. On reste donc en Haute-Vienne aujourd'hui avec Nicolas Stoufflet, Saint-Jouvent pour le jeu des 1000 euros.